France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, vous avez rendez-vous pour l'apéro, quelle que soit l'heure, avec la romancière et scénariste Anne Berest. Après le grand succès de La carte postale, où il était question de la transmission de la judaïté, elle publie Finistère sur la transmission du militantisme de gauche, et notamment en Bretagne. Le combo des deux, je vous raconte pas, c'est elle qui va vous raconter.
Bonjour Charline.
Enchantée.
De même.
Bienvenue dans mon bistrot.
Merci.
J'ai lu dans votre dernier roman que vous fréquentiez les bistrots de l'âge de 12 ans, quoi.
Oui, même avant. J'ai mis 12 ans pour que les lecteurs trouvent que ce soit vraisemblable. Parce que vous savez que la réalité est toujours plus incroyable que la fiction, donc il faut s'adapter.
Ne m'en parlez pas. Enfin, si, on va en parler. Venez, oui. On va s'installer dans ce lieu que vous connaissez bien.
Charline Vaninacker. Bistroscopie sur France Inter.
Allez, Bistroscopie saison 3 première. J'ai choisi de recevoir Anne Berest.
Eh bien, Charline, j'ai pensé à vous.
C'est vrai?
Oui.
Cet été?
Là, en arrivant, parce que j'arrive direct de Bretagne.
Ah oui.
Et alors, je vous ai apporté quelque chose.
Oh, attendez.
Alors, oui.
Vous publiez Finistère, c'est
oui,
votre.
Voilà.
Alors, je vous ai apporté. Qui paraît à la rentrée.
Pour lundi matin, pour votre rentrée des classes.
Ouais.
La confiture de fraises de Plougastel.
Oh! Merci.
Et là, comme c'est l'heure de l'apéro, je vous ai apporté, enfin je nous ai apporté.
Je vais m'entendre avec vous. Hein.
Je nous ai apporté, je vais pas dire le nom parce qu'on va pas faire de la pub, mais les Bretons reconnaîtront, c'est un pâté de porc d'une maison fondée dans le Finistère en 1907.
Ah ouais.
Charline, je suis sûre qu'en Belgique, vous n'avez jamais mangé ça.
Donc, non, c'est vrai qu'on n'a pas ça.
Voilà, donc on va demander un peu de pain et
ah ouais.
Vous raccompagner notre apéro.
Allez,
je vais
d'accord.
Vous faire découvrir. Ce pâté
1907, mais c'est pas la date de péremption. Ok, allez. Et alors, on accompagne ça de quoi pour boire? On est samedi soir.
Alors, moi, Charline, il faut que je vous dise, je vais prendre un jus de tomate, puisque avant les vacances, j'ai arrêté de boire de l'alcool en faisant du laser dans le cartilage de l'oreille. Et ça a fonctionné.
Mais pourquoi vous vouliez arrêter définitivement?
Alors, définitivement, je ne sais pas, mais pour affronter la rentrée littéraire, je me suis dit qu'il valait mieux que, que je m'enlève cette béquille émotionnelle, sinon on allait me retrouver en décembre sur les genoux. Et alors, j'ai remarqué quand même pendant toutes les vacances, à l'heure de l'apéro, quand vous ne buvez pas, vous n'existez pas.
Ah
c'est-à-dire
oui.
Qu'on sait que le vin blanc, c'est pour un tel, que le Ricard, c'est pour machin.
Ouais.
Et moi, je ne pensais même pas à mon verre d'eau. Je n'existais plus en tant que non-buveuse. Et voilà, j'ai pris conscience de ça.
Donc nous avons entre nos oreilles une Anne Berest nouvelle,
voilà.
Sans alcool, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Alors je vais me permettre une première question pour laquelle j'hésitais au départ. Après La carte postale, vous publiez donc Finistère et comme vous poursuivez l'enquête sur votre famille, je me suis dit je vais peut-être me permettre une question très intime, mais que je trouve néanmoins importante. Dites-moi si ça vous gêne d'y répondre, hein, vraiment. Votre crêpe préférée, on est plutôt complète ou galette saucisse?
Alors, très précisément, la galette en douille.
Waouh, d'accord.
Qui a été vraiment... oui, peut-être qu'il faut avoir passé beaucoup de temps dans son enfance en Bretagne pour aimer la galette en douille.
Très bien. Je ne vais pas vous demander ce qu'il y a de breton en vous, je viens de comprendre, c'est l'andouille. Le sujet de Finistère, Anne Berest, qui paraît chez Albin Michel, c'est la transmission de l'engagement militant de père en fils. Votre grand-père paysan, syndicaliste breton, votre père 68ard pur jus, pas que de tomates. Et là, l'enquête commence. Je vais vous lire trois lignes de votre roman. Le 29 mai 1909, le crieur public de Saint-Paul-de-Léon frappa son tambour, en haut des marches des Halles, pour annoncer que les courtiers avaient décidé de changer le mode de vente de la pomme de terre nouvelle. Donc Anne Berest, votre histoire familiale, du côté du père, elle commence par la patate.
Exactement. Et quand j'ai commencé cette enquête familiale, après avoir beaucoup travaillé sur la branche maternelle, et que je me suis lancée dans la branche paternelle, pour peut-être marcher sur mes deux jambes, et que j'ai découvert toute cette histoire que je ne connaissais pas, et que mon arrière-grand-père avait été un des premiers fondateurs des syndicats du paysan du Léon, et que j'ai découvert que tout commençait avec la question de la pomme de terre nouvelle, je me suis dit, ça, ma vieille... Il va falloir te plonger là-dedans. Et je dois dire que ça m'a passionnée, que je me suis quand même rendu compte qu'en 1909, les problèmes paysans étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque ces agriculteurs se révoltent, c'est parce qu'ils vendent leurs pommes de terre 9 francs et sur les Halles à Paris, elle est vendue 36 francs. Et ces paysans bretons que tout le monde prend pour des idiots ne le sont pas du tout. Et ils savent très bien ce qui se passe à Paris. Et ils commencent quand même à avoir la moutarde qui leur monte au nez. Et tout commence comme ça, comme par une révolte paysanne.
Mais comment ça se fait que vous découvrez ça sur le tard ?
Parce que, alors...
Y compris le fait que votre père est 68ard.
Oui. Alors, toute cette histoire, moi, je travaille sur la mémoire. Et sur la question de la mémoire telle qu'elle est transmise dans l'arbre généalogique. Vous savez que dans votre généalogie, il y a des légendes qu'on raconte. Il y a aussi des histoires qu'on ne raconte pas. Ce sont les histoires cachées, secrètes. Il y a les transmissions invisibles, ce qu'on vous transmet sans que vous le sachiez. Mmh. Et ça, c'est vraiment le terreau qui me passionne.
Ah oui. Donc, peut-être j'ai un ancêtre qui faisait beaucoup de blagues, admettons.
Peut-être. Mmh. Et quand j'ai travaillé sur la carte postale, c'était une mémoire qui avait été volontairement détruite. Là, dans cette histoire finistérienne, c'est une mémoire qui s'est oubliée, je dirais, par le travail naturel du temps. On oublie, au fond, qui sont nos ancêtres. Mmh. Si je vous demande, Charline, quel est le prénom de tous vos arrière-grands-parents, je ne suis pas sûre que vous puissiez me répondre.
En effet.
Et quand on y pense, c'est quand même une drôle de chose de ne pas savoir qui sont les gens qui nous ont précédés. Et ça, c'est une question qui me fascine et qui est toute ma matière littéraire. Et donc, si je ne savais rien de cette histoire des Bérestes et des Bretons et de ce premier Eugène qui a fondé la coopérative La Bretonne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est oublié. Et voilà, j'essaye d'aller à la rencontre de cette mémoire-là. Mais...
Qui s'est oublié où ?
Qui s'est oublié avec le temps ? Parce qu'aussi...
C'est votre père qui n'a pas parlé, en fait.
Alors ça, voilà. Alors ça, sur la question de mai 68, quand j'ai dit à mon père, qui est quand même un taiseux, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu souhaiterais, si tu dois laisser des choses dans ce livre, quand je vais parler de toi, qu'est-ce que tu voudrais que je laisse de toi ? D'abord, il m'a dit, je voudrais que tu lui parles de mes travaux scientifiques. Donc là, je me suis dit, ça va être compliqué, parce que c'est tellement de haut niveau.
Mais vous pouvez résumer ce qu'il calculait.
Il travaillait sur la théorie des catastrophes, qui est une théorie de la bifurcation, et qui travaille sur comment les objets changent de trajectoire. C'est-à-dire, je prends l'exemple des bulles de savon. Pourquoi une bulle de savon, soudain, décide d'éclater ? Ça, c'est une bifurcation. Et donc, dans mon enfance, j'ai quand même vu mon père faire des expériences de bulles de savon dans le salon. Et à la rentrée des classes, quand la maîtresse me demandait quel est le métier de votre père,
il fait des bulles,
et que je racontais qu'il fait des bulles de savon, je commençais très mal l'année. Oh,
ah oui.
Et donc, il me dit ça, et il me dit, je voudrais que tu parles de mon engagement trotskiste. Et là, je suis tombée de ma chaise, et je ne le connaissais pas. Alors, j'ai été élevée par un père de gauche, je peux pas ne pas...
Il y avait des indices.
Oui, il y avait des indices. Mais sur cette question du trotskisme, pas du tout. Et j'avoue qu'avant de commencer le livre, je ne pouvais pas faire la différence entre un trotskiste et un maoïste.
J'allais vous le dire. Alors moi, les trotskistes, maoïstes, lambertistes... En plus, je suis belge. Oh, là, vous êtes capable aujourd'hui, vous comprenez.
Alors maintenant, je connais la cartographie de cette question-là. Je connais même une blague trotskiste.
Allez-y, j'adore.
Qui dit, que font deux trotskistes quand ils se rencontrent ?
Je sais pas, ils décident qui est le chef ?
Non. Ils font scission.
Ah, c'est encore meilleur.
Okay. Et moi, c'est ce que j'aime quand j'écris des livres, c'est-à-dire me plonger dans l'histoire avec un grand H que je ne connais pas.
Ça veut dire que vous avez découvert sur le tard que vous êtes une fille trotskiste.
Exactement. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on devenait trotskiste, on rentrait en clandestinité. Ce qui est d'abord la JCR, jusqu'en 69, il va être interdit par le gouvernement suite aux événements de 68. Donc, les membres de la JCR deviennent, entre guillemets, illégaux.
JCR, on peut rappeler ?
Jeunesse communiste révolutionnaire, qui va devenir, en 69, la Ligue communiste, qui va être de nouveau dissoute par le gouvernement. Donc, ça veut dire que ces gens sont illégaux. Et donc, ils travaillent sur la clandestinité. Et ils vont, ça m'a passionné de découvrir ça, ils vont, au fond, prendre comme héritage l'organisation des résistants pendant la guerre, avec des modes de fonctionnement qu'on va retrouver, parce que cette génération de résistants, c'était leur père. Et donc, ils vont avoir des noms de code, comme pendant la résistance.
Et celui de votre père, c'était quoi ?
Eh bien, je ne le sais toujours pas, puisqu'il a disparu avant que je puisse lui demander. Et j'espère rencontrer, pendant cette rentrée littéraire, des anciens camarades qui vont me donner son nom. Et donc ils ont des noms de code, et puis aussi ils fonctionnent par groupe de trois, pour que tout le monde ne se connaisse pas, pour que si quelqu'un est arrêté par la police, il ne puisse pas donner le nom des autres. Il y avait aussi cette idée, comme pendant la résistance, qu'il ne fallait pas se mettre en couple entre trotskistes. Puisque se mettre en couple, c'est se mettre en danger.
Ah ouais.
Enfin, tout ça...
C'est l'idéologie passe avant l'amour, quoi.
Exactement.
Wow.
Et ça m'a intéressée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une Renéo dans le livre. Ça, c'est un maoïste qui me l'a raconté. Hein. Et c'est un autre écrivain qui s'appelle Olivier Rollin, que j'adore, qui a eu la gentillesse de faire des entretiens avec moi pour retracer un peu l'atmosphère de cette période. Et il m'a expliqué ce que c'est qu'une Renéo. C'est-à-dire ces machines qui permettaient de faire des tracts, et que très souvent, ces machines étaient celles qu'avaient utilisées les parents pendant la résistance. Et à travers cet objet, on voit la transmission de ces mouvements et de ces idéologies.
La transmission est aussi matérielle.
Exactement, ouais, ouais. Par les objets.
Mais alors, est-ce que vous avez, à ce moment-là, mieux compris l'adolescente que vous avez été et qui vous êtes aujourd'hui, en sachant, en découvrant que vous êtes fille de trotskiste, de syndicaliste agricole de...
C'est-à-dire que, bah, on va en parler après, moi j'ai baigné dans ce bain-là, je m'en suis après un peu éloignée, mais j'ai bifurqué.
C'est-à-dire, vers Saint-Germain-des-Prés, par exemple.
Voilà. Mon père considérait que je m'étais... en bourgeoisie, mais je l'assume.
Avec les trotskistes, hein, ouais.
Mais je l'assume. Je pourrais expliquer pourquoi. Mmh. Et donc oui, donc je raconte ça et beaucoup de gens vont se reconnaître, c'est-à-dire enfant de 68 ans. Mon père nous a toujours dit depuis notre naissance que nous n'aurions pas d'héritage, par exemple. Alors bon, il n'avait pas grand-chose à il n'y avait pas de patrimoine, mais qu'il était contre cette idée-là. Donc être élevé par un père qui est contre cette idée-là, c'est quand même pas rien. Mmh. Et puis par une mère hyper féministe, qui était contre les Barbies, parce que c'était une mauvaise image de la femme, qui nous a toujours dit, donc ça, j'adore cette idée-là, ne laissez jamais un homme vous offrir des cigarettes.
Ah oui.
Alors, l'idée, c'était qu'évidemment, il fallait qu'on soit des grosses fumeuses, comme elle, ça c'était...
Ah oui, les clopes dans vos bouquins, c'est,
voilà.
Je peux pas compter... Pour m'endormir, je compte le nombre de clopes qu'il y a dans vos livres.
Voilà, c'est-à-dire que je pense que le livre sent la fumée, tellement ma mère fume... Ouais. Et à chaque fois que je décide d'arrêter de fumer, ma mère fait la gueule, elle est furieuse. Et cette idée que, voilà, tu fumeras ma fille, mais jamais un homme ne te les offrira.
Wow. Ah oui, c'est une éducation particulière. Et dans Finistère, votre roman, vous vous décrivez adolescente. Et c'est un passage que je trouve intéressant, il y a vraiment votre portrait par vous-même à cet âge-là. Je voudrais qu'on le prenne pas à pas. Je portais des t-shirts à l'effigie du sous-commandant Marcos, je lisais Le Monde diplomatique, je m'inscrivais au mouvement Attaque, je fis même le voyage en bus avec d'autres militants à Millau pour soutenir José Bové. Racontez-moi, vous êtes allé démonter le McDo?
Alors non, c'était après que le McDo ait été démonté, uh-huh. Et donc José Bové avait des problèmes avec la justice.
Tiens donc.
Et le mouvement Attaque, qui venait d'être créé et auquel j'ai adhéré pour vraiment être la fille de mon père, hein, et la fille de mes parents pour... remplir le programme éducatif qu'on avait choisi pour moi. Je suis partie avec Attaque, auquel j'avais adhéré. Et nous étions partis en bus à Millau. Et je me souviens très bien, puisque nous sommes sur France Inter, j'écoutais avec mes parents Daniel Mermet.
Ah oui.
Et je me souviens que lors de ce voyage de soutien à José Bové, eh bien, je vois Daniel Mermet pour de vrai, puisqu'il était là pour faire un reportage.
Oui. Là-bas, si j'y suis.
Exactement. Et donc, j'ai eu cette première révélation de découvrir que les voix que j'avais entendues dans toute mon enfance, puisque chez moi, il y avait une radio dans chaque pièce pour ne pas rater les émissions quand on passait de la salle de bain à la cuisine. Et donc, de mettre des visages sur les voix que j'entendais. Mmh. Et j'ai eu aussi ce choc-là quand j'ai rencontré pour la première fois Alain Rey, mmh. qui sur France Inter ouais. faisait la chronique du dictionnaire.
Ah oui.
Voilà. Ben, les anciens de France Inter.
Ben, oui. Quand on sait que France Inter a poussé une jeune fille à aller à Millau avec José Bové. Oh là là, c'était une autre époque.
Oui,
allez.
C'était une autre époque.
Mais à 19 ans, vous passez une soirée avec Prince. Donc vous oui. passez de José Bové à Prince. Comment?
Alors, mon père, donc, qui était un grand chercheur, est invité à faire une année de recherche à l'université de Minneapolis. Et donc, mes parents et ma petite sœur partent une année là-bas. Mais moi, j'étais en Hippocagne, donc je suis restée en France. Et je les ai rejoints pour l'été. Mm-hmm. Et Minneapolis, c'est la ville de Prince. Et à l'époque, Internet n'existait pas vraiment. Et donc, il y avait tout un système de mails. Quand Prince se réveillait et qu'il avait envie de faire un petit concert chez lui, il envoyait des mails qui ensuite faisaient ruisseler. Et ainsi, dans Minneapolis, il y avait peut-être 80, 100 personnes qui étaient mis au courant que dans quelques heures, Prince allait recevoir tout le monde chez lui.
Ah, il faisait des showcases, ouais, à domicile.
Exactement. Ouais. Et donc moi, sur le campus, bah, j'étais devenue copine avec des étudiants. Alors j'avais 19 ans, j'étais mineure pour les États-Unis. Et ma petite sœur aussi, encore plus petite, elle devait avoir 16 ans. Et donc, il y a un des étudiants de Minneapolis qui nous a dit « Venez les filles, on va chez Prince ».
Comme ça.
Et voilà, et nous sommes partis. Je crois que sa maison, elle devait être à 3 quarts d'heure de voiture. Et nous sommes partis, et on a passé la soirée avec lui chez lui. C'était assez fou.
Ah oui. Vous n'avez pas piqué une salière en partant comme souvenir, un truc?
Non. Non, il y avait essentiellement des guitares. Ça n'était pas facile de partir avec
moins discret
sur le dos.
Et puis, parfois, une autre fille jaillissait en moi, écrivez-vous. Une fille différente que celle que mes parents auraient voulu avoir. Une fille qui avait des rêves qu'ils ne comprenaient pas. C'est cette fille que vous avez évoquée un petit peu tout à l'heure, oui, en disant « j'ai pris une bifurcation oui. ». Justement, on en parlait tout à l'heure. Cette fille-là, c'est aussi celle qui a écrit un guide intitulé « How to be a Parisian wherever you are », qui
exactement
n'est pas traduit en français. Marianne, à l'époque, a écrit un article... acide, oui, dessus, oui, en citant un passage du livre. Soyez toujours baisable, même quand vous faites la queue pour aller chercher une baguette.
Oui.
Sérieusement, c'est Anne Berès. Après tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui
alors,
où est la bifurcation,
alors,
expliquez-moi.
Le chemin, en effet, donc j'ai grandi dans cet environnement et qui est extraordinaire. Moi, j'ai adoré avoir une mère MLF. Je ne renie pas du tout cette éducation, mais quand même, quand je voyais dans les magazines que nous n'avions pas le droit d'avoir à la maison. Mais quand je voyais dans les magazines des photos, des publicités, je ne sais pas, avec Carole Bouquet, avec Catherine Deneuve, il y avait quelque chose en moi qui était tellement attiré par cette féminité-là, mm-hmm, et par cette représentation de la femme. J'ai eu un choc esthétique sur les photos de Guy Bourdin. Et j'avais honte parce que je voyais bien que ce n'était pas du tout la culture familiale. Ma mère ne se maquillait pas.
Marguerite Duras avec du rouge à lèvres, la photo très très jeune, c'est par là qu'elle vous chope en fait.
Exactement, c'est par son rouge à lèvres que le visage de Marguerite me happe. Et quelque chose en moi qui est de l'ordre d'un goût qui était le mien et d'un caractère qui était le mien, d'une esthétique, me fait voir qu'il y a des choses que j'aime que mes parents n'aiment pas. Mais je demeure persuadée qu'il y a un endroit où on peut être dans une féminité exacerbée. En fait, on peut porter des talons hauts et être féministe.
C'est une revendication aussi, justement.
Voilà,
d'accentuer les codes féminins, pourquoi
oui,
pas, bien sûr. Votre roman, Finistère, est, comme toujours dans votre travail, très documenté. Donc c'est oui, passionnant sur les époques, en Bretagne notamment, Paris en 68, etc. Vous écrivez que votre père s'engage dans le militantisme, notamment en voyant Marguerite Duras, on en parlait.
Oui.
C'est ça, à la télévision, elle discute avec des lycéens. Et elle prononce cette phrase, « Faire de la politique, c'est ne plus subir le monde ». Et puis vous, plus tard, vous écrivez Sagan 1954. Sagan, c'est celle qui, en 68, arrive au meeting d'étudiants en Ferrari.
Oui.
C'est là aussi que,
bien
finalement,
sûr,
c'est cohérent avec vous.
Oui, en fait, mais moi, je pense qu'il y a de la cohérence dans l'incohérence. Et c'est vrai qu'en travaillant sur elle, je me suis sentie très, très proche d'elle. Et de sa façon élégante d'aborder le monde, sa politesse, toujours sourire face à l'adversité.
Vous en avez tiré une sorte de philosophie que vous appliquez aujourd'hui?
En tout cas, un parfum dont j'ai parfois envie de m'envelopper et dont je me dis qu'il me plaît beaucoup.
On dirait une ambassadrice Chanel.
Oui, cette maison, vous parlez de Chanel, parce que cette maison, c'est une maison avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Et comment c'est arrivé? Eh bien, figurez-vous...
Votre mère est en PLS, là.
Oui, non, oui, alors mes parents ont eu
après,
des petites...
Après, elle le sait, mais...
Mes parents ont eu des petites suées froides. Mais... Ce qui se passe, c'est qu'un matin, j'ouvre ma boîte aux lettres et là, il y a une lettre rectangulaire très longue avec une écriture manuscrite et c'est une lettre de Karl Lagerfeld qui avait lu Sagan 54 et qui avait aimé ce livre et qui m'a écrit une lettre de 5 pages, extraordinaire. Et suite à cette lettre, je l'ai rencontrée.
Et il a relooké votre mère. c'est vraiment parfait de vous recevoir comme première invitée parce qu'on passe des trotskistes de mai 68
à Karl Lagerfeld,
à Chanel et Karl. Et là, on fédère tout le monde. Et là, c'est formidable.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au Bistroscopie avec Anne Berest, romancière et scénariste. Après le succès de La Carte Postale, il était question de la transmission de la judaïté. Elle publie Finistère sur la transmission du militantisme de gauche et de la bretonitude. En parlant de Finistère, on fait une petite pause
pâtée, parce que quand même...
Là, il y a un suspense sur la suite de l'émission. Donc on a ouvert le pâté de 1907 quand même.
Qui veut ?
Ah, moi je vais goûter ?
Allez. Je
mon
me pâté
sers breton.
Et après, je laisse l'équipe se faire. Non, mais c'est pour moi une madeleine.
Vous écoutez, on va déguster. François-Régis Gaudry.
L'horaire a-t-elle un peu changé ?
Mmh.
Ah, c'est très très bon.
Ah, voilà. Donc avec cet instant pâté, on va peut-être parler de.
Sur le titre, c'est-à-dire. Ouais. En français, Finistère veut dire la fin de la terre. Mais en breton, Penarben, c'est la tête de la terre. C'est-à-dire que c'est là non pas où elle finit, mais elle commence. Et donc en fille de linguiste, en fille de structuraliste, la langue dit quelque chose. Et pourquoi en breton c'est la tête ? Parce que les navigateurs, lorsqu'ils arrivent, la première chose qu'ils voient de la terre, c'est le Finistère. Donc c'est le commencement de la terre et non pas la fin. Donc ça, c'est pour les structuralistes et pour les adeptes de Lacan. J'ai découvert en écrivant ce livre que dans Finistère, on entend qu'il est fini de se taire. Et j'espère que les lecteurs, en refermant le livre, auront envie de parler à leur père ou à leur fille.
À la fin de Finistère, vous écrivez « Contrairement à Eugène, votre grand-père, qui avait étudié à Paris sous l'occupation, et contrairement à Pierre, qui avait connu les secousses de mai 68, votre père, il me semblait que j'appartenais à une génération inodore, anodine, molle, celle de la fin de l'histoire. »
Oui, c'est-à-dire que dans mon adolescence, donc les années 90, j'avais l'impression que pour nous, notre génération, rien ne se passait. Parce qu'avec des parents qui avaient fait mai 68, qui s'étaient battus, puis qui étaient encore engagés, hein. Voilà, j'avais fait des tentatives comme je pouvais, avec attaque, avec d'autres choses, mais j'avais l'impression que notre génération était sans histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire et les révolutions nous ont attrapés. C'est-à-dire que nous vivons, notre génération, une révolution, qui est la révolution MeToo, qui est la révolution féministe. Donc nous sommes en plein dans une histoire révolutionnaire.
Et ça m'a fait penser à un passage de La Carte Postale, le roman paru il y a 4 ans, grand succès, où vous explorez ici la branche maternelle de votre famille, la branche juive. Il y a un dîner de Pessa,
oui,
c'est la Pâque juive, dans la famille de votre compagnon, et l'un des personnages s'adresse au vieux gauchiste de la table en ces termes. Vous dites qu'avec l'arrivée du Front National, vous allez enfin vous battre, comme vos parents avec mai 68 et comme vos grands-parents pendant la guerre. C'est vos fantasmes. En fait, vous avez hâte que l'extrême droite arrive pour que vous puissiez vous sentir vivant. Vous, les puissantes gauches, vous attendez la catastrophe pour qu'enfin il se passe quelque chose dans vos vies. Alors, maintenant que ça arrive de plus en plus, est-ce que vous sentez comment ?
Je suis très bouleversée par ce que nous vivons, nous tous. On sent qu'on est en plein en train de vivre une histoire et qu'on est collé à cette histoire. On n'a pas le recul de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est marrant parce que je me souviens d'une émission que vous avez faite avec Ramzi, qui m'a beaucoup marquée.
Ramzi Bedia.
Ouais. Et je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, parce que j'écoute en replay, donc je ne peux pas vous dire si...
C'était il y a quelques mois.
Ouais, il y a quelques mois. Et il disait, ce qui nous arrive, c'est un tsunami. On ne va pas réussir à résister à ce qui nous arrive.
Parce que ça arrive de l'Est et de l'Ouest, disait-il.
Exactement. Et ça m'avait frappée, parce qu'il mettait des mots sur quelque chose que je ressens, c'est-à-dire l'impression que ce qui va nous tomber sur le coin de la tête est tellement immense qu'on est une goutte d'eau et qu'on ne sait pas par quel bout prendre pour résister. Moi, j'ai beaucoup de culpabilité en tant que... Voilà, dans ma généalogie, les gens se sont battus énormément. Ce sont des gens qui ont été des militants. que ce soit du côté de ma mère, qui ont été des résistants, qui ont risqué leur vie, ou que ce soit du côté de mon père, des gens qui se sont battus vraiment. Moi, je me sens très nulle par rapport à ça. Je trouve que mon engagement militant, ou je fais des choses à ma petite échelle, mais je me trouve pas très... je trouve que je fais pas assez. Mais, en tout cas, par exemple, ce que je fais, ce que j'ai fait après la carte postale, c'est que je suis allée dans des lycées une fois par semaine dans toute la France. Et voilà, ça, j'ai accepté toutes les demandes qu'on m'a faites de rencontres avec lycéens pour être dans la transmission de l'histoire. Donc, je peux faire mieux et je ferai mieux, mais voilà ce que j'ai essayé de faire quand même pendant 4 ans.
J'évoquais ce passage de la carte postale. Au départ, c'est une discussion, ce dîner, sur l'antisémitisme en France, où Déborah, qui est l'hôte de ce dîner, vous reproche de prendre les choses peut-être avec trop de détachement. C'est un épisode où votre fille rentre...
Elle me dit que moi, je suis juive quand ça m'arrange.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des injonctions, parfois, dans la communauté juive?
Non, 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 pas du tout. Elle me dit ça à ce moment-là, parce qu'au fond, il y a une sorte de rivalité amoureuse. Et donc, au fond, je l'excuse. Parce que
qu'on doute de votre judaïté pendant ce dîner.
C'est-à-dire, c'est un dîner où on se retrouve pour Pessar. Et moi, c'est à peu près mon premier Pessar dans le livre. Et donc, je suis nulle, je ne sais rien faire. Je ne sais pas qu'il faut lire la Haggadah dans le sens inverse de la lecture française.
Mmh. Moi, je suis tellement nulle que j'ai dit Pessar au lieu de Pessar.
Donc, je ne sais rien. Je suis vraiment comme Pierre Richard au milieu d'un dîner de Pessar. Et c'est vrai que jusqu'à la carte postale, je ne parlais pas de mes origines juives. J'explique pourquoi. Dans le livre, je fais tout ce chemin vers cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être juif. Et c'est une quête identitaire. Mais est-ce qu'il y a des injonctions? Non. Je crois profondément que qu'est-ce qu'être juif, c'est passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif. Et que ça, c'est vraiment au cœur de la pensée juive, ce qui est un questionnement.
Il y a plus complexe encore, qu'est-ce qu'être juif de gauche en France aujourd'hui?
C'est très compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'être juif de gauche en Israël aujourd'hui, c'est être dans la rue. Moi, je fais partie d'un groupe WhatsApp où les Israéliens de gauche informent les gens ici. C'est un groupe dans lequel je suis depuis longtemps. Et même avant le 7 octobre.
Et qu'est-ce qui se raconte dans ce groupe ?
Eh bien, aujourd'hui, les gens sont dans la rue. Les Israéliens sont très meurtris par la politique de Netanyahou. Et c'est important, je crois, aujourd'hui, de dire que ces manifestations sont énormes en Israël. Et elles ont commencé, moi j'ai suivi, petit à petit, comment tout cela s'est fédéré, comment la colère... contre Netanyahou s'est mise en place. Mais aujourd'hui, c'est des manifestations. Alors, je vais vous donner les chiffres qui ne sont pas ceux de la police, qui sont ceux
du groupe WhatsApp.
Du groupe WhatsApp. Il y a quasiment 10% de la population qui est dans la rue. C'est énorme, 10%. Ouais, ouais,
ouais. Netanyahou qui a accusé Macron d'alimenter le feu antisémite en appelant à la reconnaissance d'un État palestinien.
Netanyahou est moi, ma théorie qui n'appartient qu'à moi, et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est la mienne. Je crois que si en Israël aujourd'hui il y avait eu à la tête du gouvernement quelqu'un qui avait été de la génération précédente, quelqu'un qui avait vécu la Shoah et qui l'avait traversée, quelqu'un de la génération des Golda Meir, je crois que la façon de répondre au 7 octobre aurait été différente. Mais nous vivons un monde, et ça je le dis dans la carte postale, où les derniers témoins de la Shoah disparaissent. Et en fait, vivre dans un monde dans lequel les derniers témoins disparaissent, c'est vivre dans un monde dangereux et différent de celui du moment où ces témoins existaient encore. J'aurais tellement aimé que Simone Veil soit encore en vie, elle qui était une boussole et un phare et qui avait une pensée sur la politique qui était toujours éclairante. J'aurais aimé qu'elle puisse nous éclairer et avoir une parole sur ce qui se passe aujourd'hui.
Et vous entretenez cette mémoire, car si je résume, vous avez écrit un livre avec votre sœur sur votre arrière-grand-mère.
Oui,
Gabrielle Buffet-Picabia, la femme du grand peintre Francis Picabia. Puis, donc, la carte postale, le livre sur la branche familiale de votre maman. Et puis ici, Finistère, paru chez Albin Michel, sur votre père et la branche de votre père. Je me suis dit, est-ce que si on rassemble cette œuvre, c'est un best-of?
Ah oui, j'aime bien l'idée. En tout cas, c'est le début. C'est le début parce que quand j'ai écrit Gabriel, j'ai vu la vision d'un arbre dans lequel chaque feuille était une feuille de papier et la page d'un livre. Et j'ai vu que l'œuvre que je devais écrire allait être le déploiement en littérature de ce que c'est qu'un arbre généalogique. Donc là, c'est que le début.
Mais vous savez combien de livres vous allez faire paraître ?
Je sais combien et les sujets.
Et après, vous arrêtez ?
Bah, vous savez, je mets 4 ans à écrire un livre. Hein. Donc,
quand on voit comment c'est bien documenté, je comprends tout à fait. Après, vous êtes aussi scénariste, vous travaillez notamment avec Rebecca Zlotowski,
oui,
dont vous co-signez le scénario.
Un film qui va sortir bientôt en France, qui s'appelle Vie privée, avec Jodie Foster. Mais donc, c'est le début, il y aura, et donc tous mes prochains livres vont continuer à déployer les personnages de cet arbre généalogique et comment tout ça, ça se passe, les transmissions de génération en génération.
On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vos enfants vont écrire de vous plus tard?
Oh là là. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte d'idée très étrange. Ma fille de 9 ans a commencé à écrire un roman. Oui.
Bon, on va l'inviter.
On verra, mais en tout cas, ce que je voudrais transmettre, peut-être pas à mes filles, mais à ceux qui nous écoutent, écrivez vos souvenirs dans des cahiers. Écrivez, comme mon grand-père a fait, vos souvenirs d'enfance. Peut-être qu'un jour, vous aurez un petit-fille ou un petit-fils, écrivaine ou écrivain, qui en fera son miel et qui en fera des romans.
Merci Anne Berest.
Merci à vous.
Finistère, apparu chez Albin Michel. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin, réalisateur, Clément Vuillet à la technique, Raphaël Rousseau au mixage, et merci au service documentation de Radio France. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.